affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Il est très rare que je regrette que nous ne soyons pas à la télévision ou dans un média qui permette de montrer des images, mais c'est bien le cas aujourd'hui. En effet, dans notre émission de ce jour, nous allons évoquer la figure d'un peintre, d'une part, donc nous immerger dans les arts graphiques, mais de surcroît d'un peintre figuratif. Et c'est encore plus grave, d'un peintre qui veut montrer la beauté. La beauté des choses, la beauté des corps surtout. Comment faire lorsque nous n'avons que des mots pour décrire tout cela ? Nous allons en tout cas relever ce défi, mais nous n'allons pas le relever tout seul. Dieu merci, nous allons le faire avec l'aide d'Yvan Broard. Yvan Broard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez récemment publié un catalogue raisonné de Pierre-Yves Trémois, puisque c'est de lui dont il s'agit. Et vous nous avez apporté d'autres ouvrages fortement illustrés, ce qui à la fois nous intimide, mais servira de support. J'incite d'ailleurs nos auditeurs, avant d'écouter cette émission ou simultanément, à consulter ces œuvres en tapant sur leur moteur de recherche, puisque notre radio s'écoute sur des ordinateurs et des supports numériques, à taper donc les termes de Pierre-Yves Trémois, de façon à avoir sous les yeux l'œuvre de ce peintre graveur et sculpteur formidable.
Céramiste, orfèvre.
Autant dire un artiste de la matière, mais qui pourtant est, Dieu merci pour nous aujourd'hui, également inscrit dans l'histoire des idées, des idées du XXe siècle et dans ses écueils à surmonter. Yvan Broard, je viens de l'évoquer, Pierre-Yves Trémois, la vie de Pierre-Yves Trémois s'étend tout au long du siècle. Il naît dans une période de crise, et c'est d'ailleurs par là que vous commencez votre catalogue raisonné. Vous expliquez qu'il arrive après la Première Guerre mondiale et que son corps défendant, ça le marquera à jamais. Pourquoi ?
Tout à fait. Eh bien, Pierre-Yves Trémois naît précisément le 8 janvier, nous sommes au mois de janvier, et le 8 janvier 1921, bon, c'est la fin de la Grande Guerre, c'est le début en même temps des années folles, c'est une période où les esprits travaillent énormément, et où, en quelque sorte, il y a des remises en question profondes, tant au niveau politique qu'au niveau géographique, et bien entendu au niveau culturel, au niveau artistique, au niveau littéraire. Et donc, c'est des années durant lesquelles le cubisme, bon, qui était né quelque temps auparavant, mais aussi le surréalisme vont naître. Et Pierre-Yves va naître dans cette période de foisonnement culturel, mais un foisonnement de remise en question.
Il va vivre très profondément dans sa sensibilité cette remise en question, mais il ne va pas raccrocher ses propres wagons à ce qui se déroule sous ses yeux.
Non, parce que bon, il va être marqué, comme vous le disiez précédemment, il va être marqué par cette après-guerre, pas seulement par par l'après-guerre de 1920-21, mais par cette après-guerre aussi qui est marquée par la crise de 1929. Une crise qui va bouleverser, tout le monde pensait avoir un avenir radieux, et on va se retrouver dans une période de crise très importante, crise économique, crise sociale, crise sociologique, qui amènera, comme chacun sait, la Deuxième Guerre mondiale. Et Pierre-Yves Trémois, dans ses premières années de vie, va être confronté à tout ça. Il va être, comme il le restera toujours durant toute sa vie, un observateur extrêmement attentif. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà de toutes ces remises en question artistiques qu'il peut y avoir, notamment dans le surréalisme, eh bien Pierre-Yves Trémois va opter, dès sa plus tendre enfance, son premier dessin, il l'a fait à 9 ans, c'est le dessin de sa mère, eh bien il va opter pour la figuration. Et il ne s'en départira jamais. Il apparaîtra parfois à contre-courant, avec le développement tout au long du siècle, eh bien de d'autres courants, et notamment le surréalisme, on l'évoquait, le conceptualisme plus tard, mais lui restera toujours fidèle à sa vocation première, qui est celle de la figuration, et plus encore de la figuration du trait. Parce que s'il fallait définir Pierre-Yves Trémois, au-delà de l'humaniste qu'il est, on en parlera peut-être tout à l'heure, eh bien Pierre-Yves Trémois, c'est avant tout le trait.
Et tout cela commence par un carnet de croquis que lui offre sa maman, d'ailleurs.
C'est sa maman qui va lui offrir un carnet, un crayon de bois, dont il se souvient encore précisément de la marque et du modèle. Et il va faire, comme je vous le disais, son premier dessin, celui de sa maman, qui est déjà un dessin très affirmé, que l'on a représenté, bien entendu, dans le catalogue raisonné. Et il n'a que 9 ans. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que dès l'âge de 15 ans, eh bien, Pierre-Yves Trémois va aussi, et de manière tout à fait anecdotique, il pleuvait un jour, il se trouvait devant le musée Guimet, il va entrer dans le musée Guimet. Et là, il va être fasciné. Fasciné par un portrait, le portrait d'un moine japonais réalisé au XIVe siècle. Il va aussi voir dans une autre salle le portrait d'un ancêtre chinois. Et en quelque sorte, ce qu'il pressentait déjà, c'est-à-dire le trait, va se trouver chez lui transcendé. Et toute sa vie, en fait, sa vie d'artiste, il va être impressionné par l'Asie, par le Japon, qui, au niveau esthétique, se traduit essentiellement par le trait. Comme il le dit lui-même, l'auteur avait réussi en 7 traits à bâtir un portrait, et un portrait, plus qu'un portrait purement figuratif, mais à dégager en fait toute l'expression du personnage.
Dans ce que vous venez de dire, ce que l'on peut retenir, c'est qu'à travers, parce qu'il ne faut pas se méprendre, c'est-à-dire qu'à travers ces quelques traits, ce n'est pas une représentation de ce qu'il peut voir, c'est tout un univers qui s'ouvre. Est-ce que c'est pas ça qui caractérise aussi Trémois ? C'est-à-dire que certains peuvent le voir et de fait, si on a un œil distrait, on peut se dire, tiens, c'est une peinture relativement académique parce qu'elle respecte, je pense, les proportions, qu'il a un amour très très fort de la peinture, du dessin des corps. Ça peut sembler comme des exercices de virtuosité. Et pourtant, ça va bien au-delà. C'est-à-dire que lorsqu'on prend le temps de regarder les œuvres de Trémois, c'est tout un monde qui s'ouvre.
Oui, oui.
Et ce, dès le portrait de sa maman dont vous parliez, qui est assez une forte économie de moyens.
Oui.
Et pourtant, on a l'impression d'avoir connu cette femme
complètement.
Depuis toujours.
Voilà. Et en fait, sa mère, qui était une très belle femme, une sorte d'égérie en fait des années folles, il arrive à la reproduire. Et ce n'est pas du tout le dessin d'un enfant de 9 ans. Absolument pas. Donc, et ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que quand il rentre à Guimet, là, pendant cette entre-deux-guerres, de manière purement fortuite, eh bien, c'est un véritable électrochoc, comme il le dit lui-même. Donc, est-ce que c'est la grâce ? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Mais véritablement, pour un enfant de 15 ans, parce qu'on est encore enfant à 15 ans, eh bien, il ressent de plein fouet, en fait, ce choc. À tel point que lorsqu'il va rentrer chez lui, quelques semaines après, il va se mettre à peindre et à représenter un dignitaire asiatique avec une calligraphie qui ne veut rien dire mais qui est hautement esthétique. Et un de ses parents, qui était conservateur de musée, qui vient chez lui, va dire « Vous avez là un très beau Ming ». Et ça, c'est assez impressionnant dans la mesure où, déjà à 9 ans, il fait ce dessin magnifique. Et à l'âge de 15 ans, il est capable, et c'est là que le talent, en fait, pour ne pas dire le génie de Trémois, mais le talent parle déjà à l'âge de 15 ans.
Oui, d'autant que ce très beau Ming n'est pas une copie, il faut le préciser.
Absolument
hein.
pas. C'est une œuvre de création totale.
C'est une œuvre de création,
d'interprétation.
Mais qui s'apparente à l'esprit d'une œuvre des Ming.
Complètement.
C'est-à-dire qu'il a, il a interprété et, j'allais dire, digéré cet univers pour le restituer. Est-ce que c'est pas ce qui.
Et avec
une
maîtrise technique exceptionnelle.
Et par ailleurs, la maîtrise technique. L'autre point qu'il faut peut-être souligner, c'est que cette première illumination ne le quittera plus, puisqu'il va devenir un immense collectionneur des œuvres de ces pays, et notamment du Japon.
Absolument. Et Pierre-Yves Trémois a réussi, dans les années, bien entendu, bien plus tard, qui ont suivi, eh bien, à récupérer, à acheter, en fait, des œuvres magnifiques, des œuvres de premier plan, d'art japonais, parce que plus encore que l'Asie, c'est le Japon qui le passionne. Et il était prévu, d'ailleurs, plus tard, qu'il y ait une fondation Trémois à Nice. Il y a eu quelques problèmes sur lesquels nous passerons assez vite. Et Trémois voulait d'ailleurs donner l'ensemble de cette collection, des pièces qui allaient du 9e au 17e siècle, certaines inestimables. Les problèmes ont fait qu'il a récupéré ces pièces, qui ont été ensuite vendues. Et parmi les plus belles, il y a deux pièces extraordinaires qui sont à l'heure actuelle, entre autres, au musée Guimet, en présentées de manière permanente, ainsi qu'au musée de Tokyo.
Alors dans cette illumination initiale et cette quête en tant que collectionneur, cette fois, on retrouve cette fidélité chez le peintre. Je vous le disais en préparant l'émission, on a l'impression que... Trémois, même si, bien entendu, son œuvre connaît des inflexions au fur et à mesure, des techniques qu'il peut utiliser, de la façon de s'exprimer, est quand même en quelque sorte d'un bloc, et que ce qu'il était au départ prend certes de l'ampleur, se déploie,
se démultiplie dans différentes matières,
voilà, mais que néanmoins, tout cela part d'une intuition et d'une illumination initiale.
Complète. Donc le premier déclic, en quelque sorte, je dirais même l'électrochoc, pour reprendre le terme qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est l'Asie. Mais ça n'est pas que l'Asie non plus. L'Asie pour le trait, pour le côté dépouillé, si vous voulez, aller véritablement à l'épure. Mais aussi, Pierre-Yves Trémois va être extrêmement sensible et très tôt à l'art occidental.
Alors, lequel ?
Alors l'art occidental, je dirais, non pas sous toutes ses formes, mais il est passionné par le Moyen-Âge, par exemple par la Francesca, mais plus encore par la Renaissance. Par la Renaissance italienne. Il fera d'ailleurs un très bel hommage à Pisanello. On est entre, vous voyez, le Moyen-Âge, la Renaissance italienne. Et puis aussi par tous ceux qui ont eu, je dirais, la maîtrise de ce trait qu'il affectionne tant. Et parmi eux, alors il y a, et là on quitte l'Italie pour l'Allemagne, il y a Cranach et surtout Albrecht Dürer, à laquelle il voue véritablement une dévotion. Au-delà de ça, il adore également Courbet, il adore Manet, il adore Van Gogh, qui disait, entre parenthèses, en 1858, que tout son travail s'était construit sur les Japonais.
Et puis, c'est pas le seul dans la peinture occidentale, d'ailleurs.
Bien sûr, parce qu'on s'aperçoit, par exemple, que Mathieu, qui était très prisé aussi au Japon, Alechinsky, etc. Bon, sont des gens qui vont s'imprégner fortement en fait de cet art asiatique. Et il est intéressant aussi, et eh bien, de voir que Trémois rendra hommage à ces peintres, notamment à Van Gogh, mais aussi à Toulouse-Lautrec, dans la mesure où il les mettra en scène dans ses peintures et parfois en équation avec le plus grand ou l'un des plus grands maîtres de l'estampe japonaise du XVIIIe siècle, qui était Charaku. Des œuvres qu'on a exposées d'ailleurs à l'Accademia des Beaux-Arts de Florence l'année dernière et qui ont énormément plu. Ingres aussi, pour lui, est un maître du trait et quelqu'un d'absolument incontournable. Il a fait un très bel hommage qui est dans le catalogue raisonné, un très très bel hommage à Ingres.
Dans le catalogue, il y a beaucoup d'hommages. D'ailleurs, on sent que c'est quand même un homme qui reconnaît ses dettes et ses filiations. Hein.
Absolument.
C'est peut-être aussi ce qui le caractérise par rapport, je sais pas, au mythe de l'artiste romantique qui crée
Mansarde.
Et même si on sent qu'il y a une forte introspection qui rejaillit ensuite, il y a un désir d'universalité.
Complètement.
Un désir de s'approprier. Non pas s'approprier, mais d'être en contact et de se fondre dans le monde pour le restituer. Et j'en reviens à cette idée de... C'est pas une idée, à cette référence à la Renaissance. Et je m'en veux, je demande aux auditeurs de nous excuser ainsi qu'à vous d'avoir omis de vous présenter de façon complète. J'ai dit que vous aviez réalisé ce catalogue raisonné, mais puisque vous évoquez la Renaissance, ça me permet de dire que vous êtes chargé de mission art et sciences à l'Université Paris-Descartes et que cette idée de joindre l'art et la science... qui est au fond aussi au cœur de la Renaissance et qui caractérise Trémois, est peut-être finalement une des clés pour comprendre son œuvre. Je veux dire par là, on aurait tort probablement de voir en Trémois quelqu'un, parce que c'est parfois un des préjugés qui peut être donné aux gens qui tout au long de leur vie font de la peinture figurative, de dire ils inscrivent leurs pas dans celui des prédécesseurs, ils refont les mêmes recettes. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au fond, ce qui le caractérise, c'est l'esprit de curiosité.
Absolument.
De cette époque-là,
voilà.
Mais revivifié. Dans l'époque actuelle.
Et ce qui nous relie depuis 2012, époque à laquelle on a travaillé sur une grande exposition qui s'est faite au réfectoire des Cordeliers et qui s'appelait Traits de passion, c'est-à-dire c'est tout Trémois, à la fois en tant que personne et au niveau de son œuvre, eh bien c'est cet humanisme, ou peut-être la reconstruction d'un nouvel humanisme. Dans une époque qui est quand même extrêmement troublée. Et je pense que cet humanisme, cet équilibre, nous en avons beaucoup besoin. De faire des passerelles, de faire des transversales entre les sciences, les arts, de montrer en fait que nous sommes tous fondus ensemble. Darwin ne disait peut-être pas ce sujet-là, mais nous sommes tous fondus ensemble, et toutes les matières, etc. Eh bien, tout ça appartient, si vous voulez, à un humanisme qu'il nous faut impérativement reconquérir. Et on se retrouve parfaitement, si vous voulez, sur ce terrain-là. Et tous les livres que j'ai pu écrire, comme toutes les expositions que j'ai pu monter, eh bien, visent, voyez, assimiler l'ethnologie, l'histoire, l'art, etc., les sciences, de manière à faire quelque chose, à faire une véritable symbiose.
Une sorte d'œuvre totale, finalement.
D'œuvre totale, c'est-à-dire ce qu'on a perdu, parce que c'est vrai que dans notre Occident, depuis le 19e siècle, à la différence aussi de l'Asie, il y a des compartiments que l'on a fait. On le voit au niveau de la médecine, on le voit au niveau des arts. On ne vit que...
On réfléchit par silos. Oui.
Voilà. Alors qu'on a perdu, quelque part... Et là, j'avais travaillé aussi avec l'Institut Pasteur, justement, sur les comparaisons entre la médecine chinoise et la médecine occidentale. Ce que l'on a perdu, alors tout n'est pas mauvais en Occident, mais ce que l'on a perdu, en fait, c'est cette vision globale, cette conception globale qui illustre, par exemple, la médecine chinoise, ou au moins cette évolution dans une tradition que l'on ne rejette pas. Vous voyez, chez nous, je pense qu'il y a vraiment, on compartimente les gens, alors qu'il faudrait les traiter beaucoup plus dans leur ampleur.
Oui, mais d'ailleurs, c'est l'une des choses qui est frappante lorsque l'on observe. Voilà, je parle comme le Béotien qui se rend en exposition où il voit des œuvres de Trémois. Et c'est que lorsque l'on voit des œuvres de Trémois qui semblent avoir pour sujet principal, mettons, la science, par exemple un couple enlacé avec une courbe d'ADN, on est saisi par un vertige métaphysique. Et si l'on se rend au réfectoire des Cordeliers où le thème est celui de la passion, on a l'impression que la science et une vision anthropologique presque scientifique de l'homme est également présente. Ça illustre peut-être votre propos, c'est-à-dire cette volonté de réconcilier et de, voilà, de créer des passerelles.
Complètement, comme vous le disiez. C'est l'humanisme. Et c'est l'humanisme, et en même temps qui s'exprime, et c'est très net chez Trémois, par cette curiosité, ces investigations permanentes. Trémois, par exemple, ça n'est pas seulement un artiste, même s'il est un artiste multiple au niveau des matières qu'il a su utiliser, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est aussi quelqu'un qui s'est interrogé, qui pose des questions sans forcément y répondre. Par exemple, en faisant intervenir le singe qui est un peu le miroir de l'homme. Vous voyez, avec Coppens, etc. Bon, le singe qui est, entre guillemets, le plus vieil ancêtre de l'homme, etc. Bon, et qui est un peu le miroir, en fait, de cet homme. Et quand il représente le singe, c'est quelque chose d'extrêmement important dans son œuvre. Il est le miroir à la fois de l'amour, de la passion des hommes, mais aussi de leurs dérives. Et ce singe... Alors, il y a un regard qui est pesant, qui est lourd, parfois, dans des toiles qui peuvent avoisiner... Qui sont monumentales, qui peuvent avoisiner les 3 mètres ou largement les dépasser. Parfois, c'est un singe qui ne peut plus se retenir et qui va cracher, en fait, sur les hommes. Vous voyez, qui les invective véritablement. Et parfois, c'est le singe aussi qui, l'œil perdu, avec un crâne entre les mains, eh bien, vanité... essaie de faire prendre conscience aux hommes peut-être de la futilité de leur existence et puis des choses qui sont les plus importantes à préserver.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, j'avais l'impression, lorsque je vois ces peintures avec le singe, que le singe représentait juste... Enfin, voilà, c'était un moyen contemporain d'exprimer les vanités d'autrefois. On revient à la Renaissance, bien entendu.
Complètement, totalement. Mais une Renaissance remaniée complètement et réactualisée. Notamment au niveau de l'esthétique, par exemple, des personnages qui peuvent parfois surprendre. Quand on regarde dans La Passion, par exemple, qui est quelque chose qui est, je dirais, éternel, qui est de toutes les époques, eh bien, pour mettre l'accent, en fait, sur l'aspect contemporain, il va vêtir, par exemple, un des personnages d'un jean ou d'un t-shirt. Mais ça, c'est juste des petits contrepoints, peut-être des clins d'œil. Ce Trémois est quelqu'un d'extrêmement malicieux.
De fait, lorsque vous parlez de cette passion où le Christ peut revêtir à tel ou tel instant, mais effectivement de façon très légère, pas un simple détail, un blue jean, pour nous expliquer que c'est permanent, l'ensemble de son œuvre semble non situé historiquement et
elle
parfaitement
intemporelle. Voilà. Elle est à la fois de tous les temps et de notre temps. Et c'est ça qui fait aussi la force de Trémois.
Et sa force,
Trémois.
Bien entendu. C'est-à-dire que lorsqu'on les observe, on se dit qu'on va à la pulpe, à la moelle des choses et qu'on ne pourra pas se dérober. Alors justement, parmi tous ces thèmes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peintres dont on peut se dire « Oh, c'est un témoignage de telle ou telle époque ».
Oui.
Trémois, ce n'est pas le cas.
Pas du tout.
D'ailleurs, vous évoquiez Dürer ou d'autres graveurs. Il faut avoir un peu de connaissances pour pouvoir le... Ça pourrait être comme des ébauches ou des esquisses de graveurs depuis des siècles. Et l'inflexion se fait sur une sensibilité qui est, je pense, à la marge, non ?
Ah oui, et puis il y a des choses qui sont assez surprenantes. Par exemple, on évoquait tout à l'heure son admiration pour Dürer. Bon, il en a fait à plusieurs reprises. Il a fait un psychodrame sur Dürer. Il a fait une œuvre qui est monumentale, qui dépliait un dieu désordonné, qui dépliait fait plusieurs mètres de long. Enfin, des choses. Il a rendu hommage véritablement à Dürer. Par contre, Cranach l'inspire beaucoup moins. Il l'inspire beaucoup moins, c'est des formes rondes, c'est des formes en volume, alors que lui n'aime pas véritablement les volumes. Mais pourtant, il va d'ailleurs acheter un Cranach en 1978 et qui va l'inspirer. Donc il va écrire parfois des choses très dures sur Cranach.
Oui, c'est un peu grinçant quand il évoque Cranach. Donc, je ne trouve pas qu'il y a un peu de sarcasme, alors que le sarcasme est plutôt absent de son œuvre.
Complètement. Et c'est là, justement, parce que là, c'est un autre aspect, en fait, de la personnalité de Trémoy. C'est un petit peu cette ambivalence et en même temps, cette volonté de provoquer. Eh bien, parfois même à son corps défendant, il n'aime pas Cranach, parce que c'est rond, c'est en volume.
Ben ça se sent.
Bon. Mais, d'un autre côté, il y a la femme et la magie passe. Et il lui rend quand même un hommage, puisqu'il va faire un grand illustré qui s'appelle « Des petites filles modèles ». Et là, c'est pareil, c'est un peu cette ambivalence. Mais il y croit véritablement quand même, hein, quand il le fait. De même, au niveau de la sculpture, parce que Trémoy n'est pas seulement qu'un graveur, qu'un peintre, un dessinateur, c'est aussi un sculpteur. Eh bien, ses premières œuvres sculptées vont être des œuvres en aplat. Alors, il a fait, par exemple, des poissons, notamment un grand turbo, etc., avec toujours... au-delà de la représentation purement figurative d'un poisson, au cœur du poisson, il y a en fait un enfant en position fœtale. Il y a des inscriptions, il y a des marques un petit peu partout. Donc il y a des questionnements qui se font. Et en fait, c'est traité des deux côtés. Mais la sculpture est plate, un petit peu à la manière des Assyriens, des sculptures assyriennes ou égyptiennes, très dessinées en même temps. Bon, ça correspond véritablement à sa politique du trait. Par contre, dans un deuxième temps, il va faire un ensemble de sculptures en volume traditionnel, à la Rodin, au grand sculpteur italien, etc. Et là, il faut se poser la question...
Ce sont quand même des sculptures à la ligne claire, hein, si je reprends.
À la ligne claire, mais qui sont véritablement en volume. Oui. Par rapport aux œuvres polies, par exemple, les sculptures polies qu'il va faire dans un premier temps, et qui correspondent aussi, il va faire 18 sculptures comme celle-là, polies, véritablement polies, qui sont très difficiles à photographier, comme si il avait voulu que l'œuvre, elle soit véritablement vue en réalité, qu'il y ait un contact charnel entre le spectateur et l'œuvre. Pour les photographier, on en a mis bien entendu dans le catalogue raisonné, mais c'est très difficile de le faire. Et dans un deuxième temps, vous voyez, il va faire ses œuvres en volume. Bon, les lignes sont pures, mais on est quand même dans la tradition de la grande sculpture, des grands bronzes italiens du XVIIe siècle ou de Rodin. Et quelque part, si vous voyez, ça ne lui correspond pas tout à fait. Et là, où est la part de défi? Où est la part de provocation? Et ces œuvres-là, il les aime à l'heure actuelle. Il en a chez lui, si vous voulez, qui sont extraordinairement bien exposées. Il les aime à part entière, même si ça n'appartient pas véritablement. On a l'impression que parfois, si vous voulez, il va plus loin que ses limites, peut-être pour se prouver quelque chose, peut-être par provocation, alors qu'il a toujours privilégié ce trait, cette épure, etc. Ça fait partie du personnage.
De fait, vous expliquez très bien que dans sa recherche de l'épure, il va jusqu'à, en s'inspirant probablement des Japonais, jusqu'à donner la plus petite place possible à l'ombre.
Pour lui, il l'a très bien écrit dans une sorte de poème. Pour lui, bon, il ne faut pas qu'il y ait d'ombre. Il ne faut pas qu'il y ait de couleur, ou pas trop. Ou si peu, comme il le dit. Et pas d'ombre, pas de couleur. Pour lui, donc, on en revient véritablement à l'épure. Ce qui ne l'empêche pas, parfois, de rajouter sur un certain nombre de tableaux des aplats rouges, comme par exemple dans la Passion du Christ, ou là, qui évoque, bien entendu, le sang du Christ. Mais ce sont des aplats, ça n'est pas des personnages qui sont peints. On est plutôt au niveau des fonds, ou d'un bleu profond, par exemple. Mais la plupart du temps, on a ces... Alors, ce qui est aussi intéressant, on a l'habitude de voir les œuvres de Trémoy en petites dimensions. Les œuvres, pour la plupart, sont de grandes, voire de très, très grandes dimensions. Elles sont... alors, il y a bien entendu les estampes, Mais il y a aussi et surtout les peintures qui sont le gros de son œuvre, ainsi que les monotypes. Mais les peintures, par exemple, sont la plupart du temps... Alors, il en a fait sur toile, il en a fait sur des supports divers, sur bois, comme on faisait. Il a utilisé les techniques à tempéra. Et puis, l'acrylique aussi. Vous voyez, aussitôt que l'acrylique est apparue, il l'a utilisé. Parce que pour lui, en fin de compte, ce qui est important, c'est d'aller vite. L'œuvre doit se faire comme une signature,
d'un trait,
en quelque sorte. Même si ça n'était pas toujours possible avec l'acrylique, on en a beaucoup parlé avec lui. Et ce qui est assez étonnant, c'est sur des œuvres qui sont très grandes, qui sont alors des lignes noires en acrylique sur un fond qui est blanc, avec des toiles toujours magnifiquement préparées. Donc ça aussi, il y a cette notion de pérennité qui a... L'entretien, l'œuvre doit durer en quelque sorte. Eh bien, parfois, l'acrylique séchant vite, on n'arrive pas à finir le trait. Et ce qui est extraordinaire au niveau de la technique de Trémois, c'est qu'il est capable de reprendre le trait sans qu'on ne puisse voir qu'il l'a repris. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant, qui est assez invraisemblable. Et ce qui est aussi très important là-dedans, c'est qu'il faut aller vite, si vous voulez jaillir d'un seul trait, comme on fait une signature en quelque sorte. Donc ça doit être spontané, ça doit être rapide, ça doit être naturel. Pour lui, l'art, c'est ça. Et qui ne tolère aucun repentir. Autant sur une toile, par exemple, huile, acrylique, bon, on peut faire des glacis, on peut revenir des cicatifs, etc. On peut enduire. Si le trait n'est pas réussi, c'est terminé. Il n'y a pas de repentir.
Oui, d'ailleurs, il y a un moment où il explique qu'il ne supporte pas l'art qui ratiocine, qui revient, qui remâche, que tout doit partir en quelque sorte d'un jet. Donner sa vérité.
Absolument.
En une seule fois.
Voilà.
Parce que quand on procède comme ça, on ne peut pas mentir en quelque voilà. sorte. On ne peut pas recouvrir, on ne peut pas se repentir non plus.
Voilà.
On offre la vie telle qu'elle est. Ce qui est assez sidérant pour rester un petit moment sur la question de la technique, c'est que sans ombre, ou presque,
oui.
il donne du volume, du relief, et c'est presque contradictoire. C'était un peintre à l'évidence de l'incarnation, de la chair, des corps, de la beauté, de la création, et qui se refuse... les ombres qui donnent du relief et qui pourtant nous offrent une des œuvres les plus incarnées, les plus charnelles, les plus sensuelles
voilà, oui.
qui soit. Un paradoxe.
C'est paradoxal, mais c'est
étonnant,
un homme, c'est
mais
un
qui
homme
fonctionne.
De paradoxe et qui fonctionne. Et qui fonctionne dans la mesure où il arrive à créer cette impression de mouvement. Vous voyez, cette impression. Alors. Il y a Germain Bazin, je crois, qui avait écrit quelque chose, je n'ai plus le texte, peut-être que je l'ai là. Il met « Désincarné par notre œil rêveur, les corps abandonnent leur forme figurative et donc prennent... » Et c'est l'esprit qui prend le relais. Et quelque part, si vous voulez, quand on regarde, bon, si on passe très vite devant une œuvre de Trémois, on voit des lignes. À partir du moment où on se pose devant une œuvre... Eh bien, on laisse prendre l'esprit prend le relais. Ce qui n'est pas, ce qui est une véritable gageure, parce que parfois, si on est dans le monde, par exemple, du dessin, voire de la bande dessinée, etc. Bon, l'esprit prend pas le relais. C'est alors que là, l'œuvre, on peut aller beaucoup plus loin. Un petit peu, si vous voulez, pour obéir à sa démarche, qui est cette démarche d'investigation, de recherche permanente. Alors parfois, il va retravailler à travers différentes œuvres successives, tel mouvement, il va le transformer légèrement, etc. Enfin, c'est un investigateur permanent.
Oui, mais c'est là où on voit que même lorsqu'il peint des scènes... où il se passe quelque chose qui s'est passé. Mettons, deux corps s'enlacent, et oui. pourtant, de fait, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, ça ressemble à quelque chose qui tient de la calligraphie.
C'est-à-dire oui.
que tous ces traits entremêlés sont davantage que deux corps entrelacés ou un couple situé à un moment.
Voilà.
Ça devient une sorte de mouvement
voilà,
primordial.
Oui. Voilà, il y a un mouvement primordial. Donc il y a à la fois cette évocation, je dirais, de l'esprit, qui à partir de, je dirais, du trait, mais il y a aussi cette volonté, par exemple, on parlait des corps, Bon, il fait des corps simples, hommes, femmes. Mais pour lui, ce qui est important, c'est le couple. Et même, et là, le couple, avec les bras qui sont entremêlés, comme il le dit lui-même, c'est difficile. Faire déjà un corps nu, c'est difficile, mais deux corps qui sont emmêlés avec les mains, avec les
toits, etc. Mains,
voilà. Et parfois, il se plaît, comme par exemple dans Lumière et Ténèbres, dans l'œuvre monumentale qui représente les deux parois de la chapelle de la Genèse, qui font chacune 7 mètres de long sur 4 mètres de haut, et bien là, on a des corps qui sont entremêlés. Donc, on a de la figuration, mais en même temps, il y a une esthétique qui se dégage. Et parfois, si on voulait l'isoler, on arrive dans des œuvres qui frisent l'abstraction. Qui frise l'abstraction complète.
C'est pour ça que j'évoquais la calligraphie, ça tient complètement. La calligraphie.
Et ce qui est aussi très intéressant et qui vient probablement de cette influence asiatique, c'est que la calligraphie fait partie à part entière de la plupart de ses œuvres. C'est-à-dire que dans ses œuvres, il y a, que ce soit les céramiques, que ce soit l'orfèvrerie, que ce soit l'estampe, que ce soit la peinture, il y a l'intervention de mots, l'intervention de phrases. Et ce qui est aussi très intéressant et qui appartient aussi à cette tradition japonaise ou chinoise, eh bien, c'est que la calligraphie fait partie intégrante de l'œuvre. Ça n'est pas quelque chose qui est là pour éclairer l'œuvre, elle est là pour
servir...
Mais ce
n'est pas un cartel, elle fait partie de l'œuvre.
Elle est là pour servir à l'équilibre de l'œuvre. Alors là, il y a par exemple... un grand illustré qui est assez extraordinaire, même très extraordinaire, qu'il a fait à la Bibliothèque nationale, peut-être un peu pour réconcilier calligraphie et typographie, en rendant hommage aux alphabets primordiaux, c'est le bestiaire solaire, où là on a des animaux, si vous voulez, qui sont figurés, mais avec des imbrications d'alphabets multiples, d'une qualité absolument exceptionnelle. Et c'est une œuvre véritablement originale, je n'en connais pas d'autre, de cette qualité, si vous voulez, et de cette perception.
C'est ce qui est un peu troublant, parce qu'on parlait de l'humanisme. On sent un mouvement contraire, de mouvements paradoxaux, en quelque sorte, dans son œuvre. C'est là une volonté de singulariser, en tout cas je l'ai ressenti de la sorte, la beauté incroyable de l'être humain,
oui.
Et en même temps de le réinsérer complètement dans la vie globalement, et peut-être même au-delà de ce qui est vivant, dans ce qui existe complètement. C'est-à-dire qu'il supprime la frontière, mais tout en maintenant la singularité.
Il supprime
incroyable.
Les frontières. Il supprime les frontières. Et par exemple, c'est très net. Par exemple, lorsqu'il va travailler avec Jean Rostand, qui a été un de ses grands amis, le célèbre savant, qui va travailler essentiellement sur les grenouilles, sur les insectes, etc. Et donc, ils vont d'ailleurs, à eux deux, faire une sorte de partition à quatre mains avec un bestiaire animalier.
Là, bestiaire d'amour.
Bestiaire d'amour, mais d'amour animal. Vous voyez ? Et là, parfois, alors en 1990, il a fait une série de grands fusains où il y a à la fois ces enlacements humains avec les interférences
d'insectes
géants qui sont là-dedans. Et quelque part, pour justement montrer que tout est fondu, comme disait Darwin tout à l'heure, nous sommes tous fondus ensemble en quelque sorte. Nous appartenons tous, en fait,
à ce jaillissement de vie.
Voilà.
D'ailleurs, il faut pour nos auditeurs qui n'ont pas nécessairement les œuvres sous les yeux, il y a une grande différence entre les insectes peints par Trémois à côté de ces couples enlacés et ceux qu'on aurait pu voir dans des œuvres de surréalistes. C'est que dans les œuvres de surréalistes, il figure plutôt des visions d'horreur ou d'effroi, alors qu'ici, c'est tout le contraire. C'est comme une danse globale du vivant où chacun est emmené dans ce mouvement. Donc c'est vraiment le contraire.
C'est exactement le contraire. Oui, oui, on n'est pas dans le domaine de la science-fiction, absolument pas. On est dans une sorte de volonté de montrer tous les aspects du monde et de ce règne animal sous toutes ses formes.
Et de réconciliation.
De réconciliation.
Dans cette volonté ce mouvement de réconciliation et d'accueil de la vie dans toutes ses diversités. Il y a aussi peut-être aussi une transition qui vaut ce qu'elle vaut, mais ce qui est frappant, c'est la diversité incroyable de ses amitiés et semble-t-il, son refus absolu de tout esprit de chapelle. C'est-à-dire que on retrouve à la fois Louis Poels, Claudel, Monterland,
Fellini.
On sent que chez cet homme, il y avait de l'intuition qui jouait davantage que la volonté de catégoriser. Et on retrouve un petit peu ce que nous disions sur sa peinture. C'est-à-dire que c'est le continuum où la réconciliation des contraires compte plus que la volonté taxinomique. Il n'est pas taxinomique. Oui. Voilà.
Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des rencontres qu'il a faites sont des rencontres qu'il n'a pas provoquées. Par exemple, Claudel, en 1943, c'est avec l'éditeur de Noël, se rend dans l'atelier de Trémois pendant l'hiver 43-44 pour qu'il illustre en fait l'œuvre qui à l'époque s'appelait la jeune fille Violaine et qui est devenue la célèbre annonce faite à Marie. Et donc, c'est lui qui vient le chercher. Monterland, c'est lui qui vient le chercher en 1953 pour illustrer sa Pasiphaé. Parce que Monterland n'est pas content, en fait, de la Pasiphaé que Matisse lui avait illustrée en 1944. Alors Monterland, qui était un personnage, là aussi, paradoxal.
Il y a eu et beaucoup plus insupportable. Hein.
Et insupportable parfois.
Et fascinant. Oui.
Fascinant et en même temps, parfois, capable de gentillesse.
Et d'élan sincère. Oui.
Et ça sera véritablement... Il va y avoir une amitié entre eux qui va être une amitié profonde, faite de haut et de bas, parfois bon, de chicanes pour rien, un peu comme des enfants. Puis je ne voyais pas pendant 2 ou 3 mois et ça va durer une vingtaine d'années, en fait. Jusqu'à la mort assez tragique de Monterland en 72, avec, et c'est ça aussi, c'est intéressant, c'est le nombre de lettres autographes que possède encore Pierre-Yves Trémois, notamment de Monterland, et la fameuse lettre sur le suicide de Monterland qu'il adresse en fait à Trémois en le prenant un petit peu... comme juge, en fait, sur la question du suicide, alors que lui va se suicider avec des douleurs atroces. Donc, c'est Monterland qui vient le chercher. Par contre, c'est lui qui va chez Jean Rostand, à Ville-d'Avray. Là, il va aller chez lui. Mais la plupart du temps, Louis Powell va venir le voir. Il venait de créer Planète, Jacques Bergier, etc. Et donc, il veut impérativement... D'ailleurs, c'est assez intéressant. Il vient le voir en 1962. Et le numéro 6 de Planète va être la première véritable analyse de l'œuvre de Trémois.
Par Powels.
Et donc, ça, c'est assez intéressant. Alors, par contre, avec Mathieu Buffet va le rencontrer, par exemple... Dès les années 50, parce que Buffet était un très grand graveur, on le connaît en tant que peintre, mais très grand graveur, chez l'imprimeur, en fait, qui est la courrière chez qui Trémois va pratiquement graver toute son œuvre à partir de 49. Avant, c'était chez Assène. Et puis, c'est devenu après la courrière Frélo. Hein, et c'est là qu'il a fait. Et c'est là qu'il va rencontrer aussi Picasso, Gonzague, etc. C'était en fait les grands imprimeurs. Donc, il y a des rencontres comme ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que quand même, on vient à lui. Alors, il y a aussi des rencontres qui sont intéressantes, comme celle de Paul Poiret, par exemple, à Cannes.
Oui, mais racontez-nous.
C'est
de l'ordre d'anecdote, mais c'est très beau.
Mais c'est une anecdote, mais qui est magnifique.
Mais qui est révélatrice.
De
la bienveillance de son regard.
Bah oui.
Aussi.
Là, on est en 42. Donc, Trémois et sa mère... il vivait avec sa mère à cette époque-là, descendent à Cannes, ils n'y resteront pas très longtemps, ils vont remonter très vite à Paris. Et dans la rue, donc on est en 42, il a 21 ans, Trémois, il rencontre un homme et il est tout de suite conquis par son visage. Il lui demande, il l'aborde et lui demande s'il veut en faire un portrait. L'autre accepte. Et donc, il va dans son atelier, qui était un atelier un petit peu de fortune, hein, puisqu'elle n'était pas véritablement chez eux. Il va faire deux portraits, en fait, de cet homme triste, quand même, à qui il met une fleur. Et la fleur, si vous voulez, pendant qu'il le peint, perd ses pétales les unes après les autres.
Oui, parce qu'il est un peu tremblotant,
oui,
parkinsonien.
Il est parkinsonien. Et donc, on a quelque chose qui est assez émotionnel, en quelque sorte. Il fait deux portraits, il en donnera un, d'ailleurs, je crois. Et en fait, à la fin, il lui demande « Qui êtes-vous ?» Et c'était Paul Poiret, le grand couturier, qui finissait tristement sa vie, abandonné de tous ses amis, en fait, à Cannes. Donc, il y a des choses comme ça qui sont ténues. C'est comme ça, rendre compte, bon, qui est tout à fait différente avec Sacha Guitry, par exemple, ou avec Paul Valéry.
Quand il aussi, c'est Sacha Guitry qui le demande. Hein.
Qui le demande, aussi.
Tout, et même qui le demande, parce que oui, Guitry, il demande les gens.
Et tout en ne le connaissant pas. Parce qu'il avait vu, en fait, en 1942, à la Bibliothèque nationale, les œuvres de Trémoy. C'était sa première exposition, où il était d'ailleurs très mis en valeur par Sevenzac, Derain, Varrocchier, Goerg, etc. Oui. Enfin, les maîtres,
oui,
de,
voisinage,
les maîtres de l'époque. Sevenzac sera d'ailleurs son premier collectionneur de Trémoy. Et donc, Sacha Guitry avait vu ses œuvres et il l'appelle. Donc il arrive un petit peu tremblotant, c'est encore c'est un jeune homme, hein. Puis, alors que Guitry, oui, il faut en gueule et haut en couleur.
Même dès l'appel, allô, ici Sacha Guitry, et très moins de répondre, ici P12.
N'y croyant pas un seul instant.
Que Sacha Guitry puisse l'appeler.
Et quand il arrive, alors Guitry lui dit, mais je ne pensais pas que vous étiez... C'est votre père que j'attendais. Parce ce qui montre aussi qu'il y avait déjà une maîtrise à 20 ans, en fait, une maîtrise, une technique, un savoir-faire, un talent, qui avait conquis à la fois les grands peintres de l'époque et en même temps un Guitry qui, au-delà du personnage haut en couleur qu'il était, était un grand collectionneur. Et il décrit d'ailleurs sa visite, Trémoy, avec toutes les œuvres du trio. Il y a la femme du trio qui arrive, etc.
On a l'impression d'être au château de Moulinsart.
Complètement. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont... Alors, il y a des amitiés très importantes. Et
oui, il y a un nom que nous n'avons pas encore cité, alors qu'il a eu beaucoup d'importance, semble-t-il, pour lui. C'est celui de Dali.
Ah, Dali, oui. Dali, très, très intéressant. Alors, il y a des anecdotes qui sont... Alors, on n'a pas mis toutes les anecdotes, parce qu'il y en a qui sont encore plus savoureuses, mais un peu moins racontables. Par contre... tout est possible. Et donc...
Écoutez, nous ne sommes pas contre les scoops, hein, si vous...
Non. Mais quand il va voir Jean Rostand, par exemple, en 57, pour lui proposer son bestiaire, hein, d'amour, c'est-à-dire l'amour chez les animaux... Et là, c'est le monde à l'envers aussi quand il va chez Rostand. D'habitude, si vous voulez, il y va avec des dessins et il lui dit il faudrait un texte dessus, alors que la plupart du temps, le texte est déjà fait. Et Rostand va accepter tout de suite. Alors pourquoi Rostand? Parce qu'il y avait les fameux après-midi de Ville d'Avray où il y avait beaucoup de monde qui venait. Enfin, c'était
de toute discipline déjà.
De toute discipline. Et c'est là, en fait, que Trémoy va amener Dali voir Rostand. Alors je crois que c'est à ce moment-là, parce que Trémoy a toujours été amateur aussi de la beauté, et notamment des voitures, des belles voitures. Et donc, il amène Dali qui tenait sa moustache, parce que sa moustache était postiche, hein, à Dali, ça personne ne le sait beaucoup. Et puis, c'est ce qui m'a été rapporté, en tout cas. Et puis, donc, ils arrivent, et là, il y a Dali qui fait son numéro, comme d'habitude. Et puis, bon, ils quittent Rostand. Après, ils vont se revoir à plusieurs reprises, hein, et lors des farces daliniennes. Et après, Dali sort, parce qu'il... Dali est un personnage assez particulier quand même, qui n'est pas forcément celui qu'on imagine. Hein. Et donc, Dali dit à Trémoy, j'espère, avec l'accent et en roulant les airs, qu'il a été séduit, votre ami Rostand. Et donc, comme quoi, il tenait quand même beaucoup je dirais, à l'apparence qu'il pouvait donner.
On s'en doutait un petit peu quand même.
Hein. Oui, 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 oui.
Mais il avait séduit Rostand avec un discours sur l'épigénèse.
Ce
qui est quand même... voilà.
Et sur les jumeaux aussi.
Et sur les jumeaux, il avait voulu faire quelque chose d'assez cosmique.
Mais là, ça représentait quand même quelque chose dans la vie de Dali qui était extrêmement important, parce qu'il a vu un frère aîné, Dali, qui était décédé, très jeune. Et en fin de compte, quelque part, dans la famille, il a toujours eu l'impression, Dali, que...
D'être un double.
Et c'est là, quand il fait ses grands discours sur les jumeaux, etc., c'est toute cette souffrance qu'il a cumulée. Et donc, bon, là, on est déjà dans d'autres choses. Mais c'est vrai que Trémoy aime beaucoup Dali, qui va retrouver à l'Académie des Beaux-Arts, puisque Dali va entrer après à l'Académie des Beaux-Arts. Il y a de très belles photos, d'ailleurs, dans le catalogue Raisonné.
Avec Powell également.
Avec Powell. Avec Rostropovitch, parce qu'il ne faut pas oublier que Trémoy qui rentre à l'Académie des Beaux-Arts en 1978, eh bien, va aussi faire nombre d'épées, en tant qu'orfèvre, de pommeaux d'épées d'académiciens, notamment celle de Rostropovitch, celle d'André Bettencourt, celle de Gérard Houry. Et il va aussi, lui aussi, faire sa propre épée, Trémoy, qui bien entendu est un sabre japonais.
Dans le développement de cette œuvre, vous qui le fréquentez encore,
beaucoup.
Vous qui le fréquentez encore, voilà, beaucoup, et il faut d'ailleurs dire que l'œuvre de Trémoy se poursuit, car il est encore... tout à fait actif, et nous l'avons dit au début, c'est-à-dire que son œuvre d'aujourd'hui n'est pas quelque chose d'annexe à son œuvre initiale, mais comme son prolongement et comme un flux qui se poursuit dans la fidélité.
Oui.
Quel peut être le sens à trouver dans cette œuvre, dans un monde, cette œuvre incarnée, charnelle, sensuelle, de réconciliation des contraires, soulignant la complémentarité des différents pôles dans une unité solaire, en quelque sorte, dans le monde d'aujourd'hui, qui vise plutôt à scinder, diviser, classifier, opposer, mettre dans des petites cases.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette volonté humaniste qu'il a, et de se servir du corps ou des corps comme point de départ, avec en filigrane toujours cette notion de passion, et puis qui peut s'exprimer dans l'étreinte, mais une étreinte, comme on a pu l'évoquer, qui peut montrer une certaine violence, parce que le corps à corps, par exemple, ou l'étreinte passionnelle, par exemple, de l'homme et de la femme, ou deux hommes, hein, puisqu'il a aussi fait un certain nombre de représentations de corps mêlés d'hommes, de femmes, ou d'hommes et de femmes. Voyez. Et donc, c'est de partir de cette enveloppe charnelle pour, avoir... essayer de retrouver une vision globale du monde. Je crois que le corps, bon, pour lui, c'est l'évocation en même temps et la représentation de la beauté, parce que c'est un homme d'esthétique, c'est un homme de beauté qui, par ailleurs, est d'une élégance folle, aussi bien au niveau de sa mise, de ses postures, que de son esprit. C'est un homme, s'il fallait le définir, c'est un homme de talent, c'est un homme d'élégance, passionné de la vie, qui a marqué en fait, c'est un passionné de la vie et du plaisir dont est la vie. Et c'est pour ça que je crois que c'est Rostand qui a dit ça, c'est du plaisir que naît la vie. Et en quelque sorte, lorsque Trémoy développe un certain nombre de poses qui peuvent être considérées érotiques comme érotiques, ou voire plus, si vous voulez, il y a toujours cette deuxième lecture qu'on peut avoir et qu'il a parfaitement exprimé, et Rostand l'a très bien compris, il a adhéré totalement, si vous voulez, à Trémois, notamment dans ce bestiaire d'amour, que il y a ce deuxième degré. Ça n'est jamais, si vous voulez, de vulgaire. Il n'y a pas de vulgarité, jamais. Il y a toujours une élégance et en même temps des interrogations. Voyez, et donc le corps est véritablement le support, je dirais, de tout. C'est le dénominateur commun, à la fois au niveau des sciences, parce qu'il s'est beaucoup interrogé, par exemple, sur la biologie, sur plein de découvertes nouvelles qu'il y a eu après la guerre dans les années 50-60. Et en même temps, cette volonté, voyez, d'utiliser le corps pour aller plus loin, pour reprendre les vieilles traditions, si vous voulez, du rapport entre le microcosme et le macrocosme, de l'homme et de l'univers. Voyez, à l'époque où on commence à aller vouloir découvrir la Lune, le système solaire, etc., mais aussi les mystères de la vie, en quelque sorte, mais toujours associés au plaisir, en quelque sorte, voyez, mais aussi aux violences. Qui peuvent représenter le côté négatif du genre humain.
Écoutez, je ne sais qu'ajouter à ce qui ressemble à une conclusion, mais c'est certain, j'ai eu peur lorsque vous disiez érotique, voire même plus. Il ne fallait évidemment pas traduire, voire même plus, dans le côté osé, c'est-à-dire que plus, ça ne signifiait pas la pornographie, mais tout le contraire, voire même plus, ça signifiait métaphysique.
Et c'est ce que tous les grands, par exemple, les textes de Monterland, les textes de Powells, etc., à ce sujet, sont extrêmement révélateurs. Vous voyez qu'on ne sombre jamais, 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 au grand jamais. On reste toujours dans le domaine de l'élégance. Et en même temps, de l'esprit, de l'investigation permanente. Et ça, c'est ça qui caractérise vraiment Trémois, c'est-à-dire c'est cet amour de la vie et en même temps cette permanence d'investigation.
Écoutez, après avoir parlé avec vous, il ne se voit certainement pas comme cela, mais il nous apparaît comme presque un remède esthétique, voire métaphysique à toutes nos névroses contemporaines. Un antidote, une façon de nous réconcilier avec le monde, avec nous-mêmes, avec aussi nos misères, vous l'avez dit, car la violence fait partie aussi de notre nature. Et qui fait l'ange fait la bête, il faudrait peut-être arrêter de chasser tout cela et l'accepter tel que nous sommes, accepter la création et en voir la beauté. Mais pour ça, il faut des médiateurs qui nous permettent de la voir, et il est certainement l'un d'entre eux.
Absolument.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour prolonger cette causerie autour de l'œuvre de Trémois. Je ne peux que renvoyer nos auditeurs à ce magnifique catalogue raisonné, qui est bien plus qu'un catalogue. Oui. Hein, on est bien d'accord que c'est pas comme une bibliographie illustrée, c'est bien au-delà. Puisque
il y a toute une partie monographique en même temps. Et puis et tout
c'est,
un travail.
Et c'est raisonné dans tous les sens du terme, et ça va, tout ce qui est dit et évoqué entre en résonance.
Aux éditions Monel
Ayo. Oui, je viens. Aux éditions Monel Ayo, disponibles dans toutes les bonnes librairies et bien entendu par correspondance. Et vous nous disiez aussi en préparation qu'il y avait une actualité en termes d'exposition à venir, puisque l'œuvre se poursuit, elle sera exposée.
L'œuvre se poursuit, et sur modèle vivant, on n'a pas abordé ça, mais Trémois travaille toujours sur modèle vivant. Et là, l'objectif que nous avons, bon, c'est peut-être un petit peu d'effleurer le sujet un peu prématuré, et lui, son grand souhait, c'est de faire une rétrospective de son œuvre sous tous les aspects de la céramique, de la sculpture, de l'orfèvrerie, des estampes, des peintures, ce qui montre encore l'éclectisme, si vous voulez, et l'investigateur qu'il est au niveau des matières, pas seulement au niveau de la pensée, mais au niveau des matières. Eh bien, lui, son énorme souhait, j'espère que nous allons pouvoir le réaliser, ça serait de faire la réouverture du réfectoire des Cordeliers avec une grande rétrospective des œuvres de Trémois.
Donc il faut être attentif, mais si ça se produit, vous viendrez nous en parler sur le
l'antenne
de
pas.
Canal Academy. Merci beaucoup.
Thank you.